VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, direction le Mali. Le chef de l'ex-junte malienne, le général Amadou Sanogo, sera jugé devant les assises à Bamako à partir du 30 novembre pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires dont les corps ont été découverts dans un charnier. En 2013, a annoncé aujourd'hui une source judiciaire dans la capitale malienne. Le général Sanogo, incarcéré depuis fin 2013, est inculpé dans l'affaire des Bérets Rouges, des soldats opposés au putsch de mars 2012 qui a renversé le président Amadou Toumani Touré et dont les corps ont été retrouvés en décembre 2013 dans un charnier à Diago, près de Bamako. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires ivoiriens annoncent le durcissement de leur mouvement après 3 jours de grève. Ils dénoncent des coupes sombres dans les pensions des retraités et des veuves. Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien.
Si nos revendications ne sont pas satisfaites, comme c'est le cas au troisième jour de notre grève, parce qu'au lieu de nous appeler à la discussion, c'est plutôt des menaces que nous recevons de la part du gouvernement, des injonctions que nous recevons de la part du gouvernement, alors que nous sommes ouverts à la discussion, et la grève prend fin aujourd'hui même, jeudi. Si rien n'est fait, nous allons relancer le mouvement, le durcir, le rallonger dans le temps, et cela d'ici le début du mois de décembre.
Théodore Nyanya, leader des grévistes, des fonctionnaires grévistes en Côte d'Ivoire. Au Burundi, plus de 13 000 étudiants des universités publiques et privées attirent l'attention sur leur sort, déclarant publiquement que leur vie au quotidien est difficile. Reportage dans la capitale burundaise, Christophe Nkuruziza.
6 étudiants de l'université de Bujumbura vivent dans une même chambre louée dans le quartier de Nyakabiga, proche. 3 sont boursiers du gouvernement, les autres que non. Ils se disent frères au sens burundais du terme, partageant la même chambre et la même assiette une fois disponible. La plupart des étudiants louent des maisons dans des quartiers périphériques car leur bourse de 17 dollars le mois ne leur permet pas de vivre décemment. Cet étudiant de deuxième candidature en histoire nous explique que lier les deux bouts du mois est une gymnastique intenable.
La vie est difficile. Nous sommes en train de mener une vie vraiment difficile, surtout concernant la vie, comment on peut se restaurer et puis la location de là où nous habitons, c'est vraiment compliqué avec la bourse que nous percevons de 30 000. Si on parvient à payer la maison, on ne peut pas se restaurer, on ne peut pas voir comment se déplacer vers le milieu ou apprendre les cours. C'est vraiment difficile. Ça arrive souvent que ça provoque les échecs.
Jadis, les étudiants de l'Université du Burundi avaient des bus de transport. Aujourd'hui, les anciennes habitudes ne sont pas de mise. Il faut aller dans les amphithéâtres à pied sous un soleil ardent ou une pluie diluvienne. La belle époque des années dernières a déjà changé. Témoignage d'un étudiant qui habite à Nyakabiga avec 5 autres étudiants.
La maison donc est louée à 80 000. Il nous est difficile de payer cette maison, mais aussi de manger. Étant donné que nos parents sont pauvres, il nous est aussi difficile de trouver quelque chose à manger. 30 000, c'est très difficile.
Toutes ces conditions draconiennes dont font face quotidiennement les dizaines de milliers d'étudiants des universités au Burundi ne facilitent pas l'assimilation des cours. Les résultats académiques ne sont pas brillants, comme l'affirme ce fonctionnaire chargé de la qualité des cours enseignés à l'université du Burundi. Docteur Valos Runagu.
Je pense que ce que disent les étudiants est tout à fait correct, une réalité, que les conditions dans lesquelles vivent et travaillent les étudiants impactent de façon directe leurs performances sur le plan académique. Par le passé, il y avait un bon nombre d'étudiants qui étaient logés au niveau des homes universitaires et qui donc bénéficiaient des avantages sociaux quand même assez consistants, qui leur permettaient de travailler dans des conditions plus ou moins acceptables. Eh bien, je dois dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces avantages sociaux ont beaucoup diminué. C'est clair que les conditions de vie de plus en plus difficiles dans lesquelles se trouvent nos étudiants impactent de façon directe leur performance sur le plan académique.
Aujourd'hui, les autorités gouvernementales ont opté pour un prêt bourse pour les futurs étudiants de l'Université du Burundi, excepté ceux qui reçoivent des bourses d'excellence. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Pour la deuxième journée de suite, des manifestants ont défilé hier dans les rues de plusieurs villes américaines pour protester contre la victoire inattendue de Donald Trump à l'élection présidentielle, exprimant les craintes de voir l'accession de l'homme d'affaires à la Maison-Blanche porter un coup aux droits civiques dans le pays. À Portland, dans l'Oregon, la manifestation a dégénéré en fin de soirée lorsque des jeunes ont jeté des projectiles sur les policiers, brisé des vitrines et endommagé des voitures et du mobilier public. La police de Portland, qui a qualifié la manifestation d'émeute, a riposté en tirant des grenades lacrymogènes. Des actes de vandalisme ont aussi été rapportés à Oakland, l'une des villes de Californie où se tenaient des rassemblements avec Los Angeles et San Francisco. Cela dit, les Américains musulmans se préparent à vivre sous un nouveau président qui avait, pendant sa campagne, proposé d'interdire l'entrée aux musulmans étrangers à la suite de plusieurs attentats terroristes aux États-Unis. Les Américains musulmans seraient-ils inquiets? Salwa Jafari.
Pour beaucoup de musulmans résidant à Dearborn, au Michigan, la victoire de Donald Trump est venue comme une surprise.
Trump a mené une campagne ancrée dans le racisme et la bigoterie. Il l'a utilisée pour avoir le soutien des électeurs et nous assistons maintenant au résultat. Et c'est une pensée effrayante.
Pour Abdallah Hamoud, nouvellement élu membre du Congrès, la nuit électorale était remplie d'émotions contradictoires.
C'est un vrai contraste. Pour la première fois dans l'histoire de Dearborn, on a élu un musulman arabo-américain de la première génération. Et à l'échelle de l'État, on soutient Trump et une présidence Trump.
Asha Noor est une activiste au centre communautaire arabe. Trump à la Maison-Blanche, c'est une image qui ne l'enchante pas.
Cela montre que le racisme et la bigoterie ont prévalu. Cela me montre que je ne vis pas dans une société post-raciale. Et cela me montre que certaines communautés ne sont pas les bienvenues dans cette société.
L'éditeur d'Arab American News, Osama Siblani, affirme que beaucoup d'Américains musulmans ont voté pour Hillary Clinton, mais n'étaient pas vraiment passionnés par sa candidature.
Hier, pour la première fois, Barack Obama et son successeur Donald Trump étaient assis côte à côte dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Une scène inimaginable. Il y a quelques jours, ils se sont efforcés de tourner la page des mois de campagne acrimonieuse et d'afficher une volonté de travailler pour le bien de la démocratie américaine. Après la Maison-Blanche, Donald Trump, le président élu, s'est aussi rendu au Congrès. Il a rencontré Paul Ryan, le président de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Ce dernier avait annoncé en pleine campagne qu'il ne défendrait plus M. Trump, mais avait tout de même voté pour lui. Pour gouverner, M. Trump aura besoin de l'appui du Congrès, dominé par les républicains. Le président élu Donald Trump va s'atteler maintenant à la constitution de son équipe en continuant de se préparer a accédé en janvier aux plus hautes responsabilités. Toute autre chose maintenant, nouvelle directive de l'Organisation mondiale de la santé en matière de santé prénatale. L'objectif visé par l'OMS, améliorer les chances de survie des futures mères et de leurs nourrissons. Les précisions de Maurice Bouchagou du département de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS.
La philosophie qui est derrière, c'est non seulement pouvoir détecter les complications qui peuvent survenir pendant la grossesse en vue de pouvoir réduire les décès, surtout chez les enfants qui étaient observés dans un certain nombre de pays, mais aussi aller pour une expérience positive de la grossesse en mettant un accent particulier sur la qualité des soins. Deuxième chose, on a constaté que plus on a des contacts entre les praticiens et les femmes enceintes, donc pendant la grossesse, plus il y avait des chances de détecter tout ce qui peut survenir comme complication pendant la grossesse et donc prévenir les cas graves. Il s'agit d'avoir au moins 8 contacts pendant la grossesse et ceci donc par opposition aux 4 visites qui étaient connues de façon classique. Le troisième point le plus important qui est apparu, c'est que l'utilisation de l'échographie au début de la grossesse permet, n'est-ce pas, aux praticiens de dater l'âge de la grossesse et de pouvoir donc intervenir à tout moment. Parfois, il peut s'agir d'une grossesse multiple, il peut s'agir de malformations qui sont détectées par ces nouvelles technologies. Et ceci donc permet d'avoir de meilleurs résultats par rapport à la fin de la grossesse, à l'accouchement et à l'état des nouveau-nés.
Dr Maurice Bukogju de l'OMS. Les talibans ont revendiqué jeudi soir une attaque qui a fait au moins 6 morts contre le consulat allemand de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan en représailles à la mort de civils dans un bombardement de l'OTAN la semaine dernière à Kunduz. Par ailleurs, 128 personnes ont été blessées, dont 10 enfants. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.